Alors, maintenant, nous allons écouter Delphine Jaillot, qui est brillante docteure, qui a soutenu sa thèse en décembre sur le bovarisme et la pathologie littéraire, on peut dire.
Mm-hmm. Bovarisme comme
pathologie littéraire. Et qui, donc, maintenant, va nous parler des portraits d'Emma, hein, d'une femme... C'est une femme écrite à une,
aux
femmes décrites.
Est-ce qu'il faut que je m'approche? Oui.
Donc, portrait d'Emma, d'une femme écrite aux femmes décrites. Dans le chapitre 5 de Bouvard et Pécuchet, les deux bons hommes, alors apprentis acteurs, s'essaient à divers rôles du répertoire et organisent une petite représentation théâtrale à laquelle ils ont convié Madame Bordin. Je cite le texte de Flaubert. « Enfin, Bouvard lui proposa la grande scène de Tartuffe au troisième acte. » Pécuchet crut une explication nécessaire. Il faut savoir que Tartuffe, Madame Bordin l'interrompit, on sait ce que c'est qu'un Tartuffe. En 1857, juste après la parution de Madame Bovary, un lecteur enthousiaste, Émile Queltot, écrit à Flaubert « Qui sait, monsieur, si dans quelque temps, on ne dira pas, en parlant d'une femme incomprise, romanesque, aux idées idéales, c'est une Bovary ?» Comme on dit d'un faux dévot, c'est un Tartuffe. La remarque de ce lecteur prend, à un siècle et demi de distance, un caractère quasi oraculaire. On dit bien, en effet, aujourd'hui, c'est une Bovary. En tout cas, on peut le dire. Comme on peut dire et comme on dit, c'est un Tartuffe. Pourtant, si l'on sait ce que c'est qu'un Tartuffe, hein, comme dit Madame Bordin, il n'est pas certain qu'on sache exactement ce qu'est une Bovary. D'ailleurs, est-on si sûr qu'une Bovary désigne une femme incomprise, romanesque, aux idées idéales? A-t-elle toujours désigné cela? Un siècle et demi de critique a vu le portrait d'Emma, voire les portraits d'Emma, évoluer. On sait ce que c'est qu'une Bovary. Telle pourrait être la posture qu'ont adoptée les critiques de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, avant qu'une nouvelle posture critique, qui revendiquerait l'impossibilité de savoir ce qu'est une Bovary, n'intervienne. Nous allons donc revisiter ce siècle et demi de parcours critique sous l'angle du portrait d'Emma, qui s'en déduit, ou qui a du mal à s'en déduire ou qui ne peut s'en déduire tout à fait, pour interroger l'inédit, en quelque sorte, de la proposition flaubertienne. Je vais donc partir de 1857 et de l'article de Sainte-Beuve dans le Moniteur, en mai 1857. C'est par la phrase « Elle est femme » que Sainte-Beuve ouvre le portrait d'Emma. Cette phrase, quelque peu sibylline, malgré ce qu'on pressent du cortège de clichés qui vont pouvoir se décliner à partir de cette proposition liminaire, pourrait résumer à elle seule la teneur du projet auquel vont se livrer les critiques de l'immédiate réception de Madame Bovary. Définir précisément quel est cet être femme que Flaubert leur a donné à voir. Ce qui sera également une façon de dire, comme on va le voir, ce que doit être une femme. Pour Sainte-Beuve, comme l'indique la suite de sa phrase, elle n'est que romanesque d'abord et n'est nullement corrompue. Être femme impliquerait donc une alternative entre romanesque et corrompue. Si en disant cela, Sainte-Beuve poursuit la réflexion initiée par le débat juridico-esthétique du procès intenté à Flaubert, il annonce également un autre débat autour du tempérament d'Emma qui va se mettre en place à ce moment-là et se systématiser au point de prendre l'allure d'une querelle comme celle qui verra le jour un peu plus tard, beaucoup plus tard même, à propos du style de Flaubert. Mais pour l'heure, la question est de savoir si Emma Bovary est romanesque ou sensuelle, question qui redouble d'une certaine manière celle de savoir si elle est coupable ou non. S'opposant à Sainte-Beuve qui déclarait qu'Emma était la seule nature distinguée et rêveuse de tout le roman, Barbey d'Aurevilly s'étonne, au contraire, d'une nature si peu exceptionnelle. De même, alors que Sainte-Beuve avançait l'hypothèse d'un tempérament romanesque qui la dédouane de toute corruption, c'est sur les amours adultères d'Emma que Barbey va insister, en précisant que Flaubert est passé maître en nosographe de la corruption. À la suite de Barbey, Cuvillier-Fleury va œuvrer pour établir la thèse d'un sensualisme coupable, faisant du frisson d'Emma l'irréfutable indice d'un tempérament sensuel qui résumerait intégralement sa personnalité. Je cite Cuvillier-Fleury. Ce frisson d'Emma, pendant le dîner de la Vaubyessard, n'est pas un simple détail de son histoire, c'est son histoire tout entière. Emma frissonne partout et pour tout le monde, frisson d'amour ou de haine, frisson d'orgueil ou de convoitise, frisson de plaisir surtout. Cuvillier-Fleury n'en laisse pas moins entendre qu'Emma, au regard de l'éducation littéraire qu'elle a reçue, aurait pu correspondre à un autre type féminin. Emma Rouault, je cite, « Emma Rouault, pour peu qu'elle l'eût voulu, aurait pu être une femme incomprise, tout comme une autre. Mais l'auteur nous dit qu'elle s'ennuya très vite de l'idéal. Et une fois mariée avec ce bon Charles, elle n'est plus qu'une femme très sensuelle, avide de distraction et de jouissance, rêvant non l'infini, mais le positif, aimant à glisser non plus sur le beau lac de son poète, mais sur les vieilles roues de la diligence qui la conduit à ses rendez-vous. » La distinction est ici implicite entre la femme romanesque ou littéraire, qui se confond avec la femme vertueuse, c'est-à-dire qui se contente d'être incomprise, et la femme sensuelle, qui, pour avoir refusé d'être une femme incomprise tout comme une autre, devient nécessairement malhonnête. C'est un même raisonnement qui conduit Gustave Merlet à opposer, cette fois-ci explicitement, la sensuelle et la romanesque, et à faire le choix de la thèse sensualiste. Rappelant, de même que son prédécesseur, les différentes étapes de l'éducation d'Emma, Gustave Merlet engage le lecteur à ne pas se laisser abuser par les apparences qui plaident en faveur d'un tempérament romanesque. À première vue, on peut s'y tromper, écrit Gustave Merlet. Car le roman semblait annoncer tout d'abord le développement psychologique d'un caractère. Rappelons-nous cette enquête si consciencieuse sur les antécédents de la prévenue. Très bien, direz-vous, j'ai compris. Emma est romanesque. On va la marier et nous aurons une seconde édition de Valentine. Plût à Dieu. Mais votre diagnostic est dans l'erreur. Débrouillez si vous pouvez cet écheveau d'aspirations sentimentales, de vagues rêveries, de platoniques dithyrambes, et entrez au cœur du récit. Et dès le premier faux pas de l'héroïne, vous saurez qu'elle est née et qu'elle mourra courtisane. C'est la seule formule qui l'explique. Gustave Merlet va donc un peu plus loin que Cuvillier-Fleury, pour qui Emma aurait pu être romanesque, mais qui est devenue sensuelle. Merlet tend à démontrer qu'Emma n'a jamais été romanesque, mais bien qu'elle a un tempérament sensuel inné. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le reproche qu'il adresse à Flaubert, c'est d'avoir tenté d'égarer le lecteur par une psychologie de couverture qui dissimulerait sa vraie nature. De la physiologie, voilà le fond de l'ouvrage. pas un sentiment qui ne soit ramené à une sensation, s'indigne le critique. Et c'est pourtant Brunetière que la postérité retiendra comme le principal porte-parole de la thèse sensualiste. Je cite Brunetière, c'est assez connu, hein, cet extrait également. Dans cette nature de femme, à tous autres égards moyenne et même commune, il y a quelque chose d'extrême et de rare par conséquent, qui est la finesse des sens. Elle est sotte, mal élevée, prétentieuse, ni tête ni cœur, fausse, avide, par instant même froidement et bêtement cruelle, mais comme ses sens, exaspérés par la privation de ce qu'elle n'a jamais connu, sont devenus fins et subtils, comme les moindres sensations retentissent longuement et profondément en elle, comme, au plus léger contact de la plus légère impression, vous la sentez qui vibre tout entière. On a le retour du frisson qui réapparaît. Mais il faut préciser que Brunetière, contrairement à ses prédécesseurs, n'est pas scandalisée par cette sensualité. D'ailleurs, il ne l'attribue pas à une intentionnalité flaubertienne, mais plutôt à une incapacité, à une maladresse ou à un défaut. Car selon Brunetière, cet étonnant portrait physiologique d'Emma, que l'on obtient dans Madame Bovary, n'est pas le signe du talent de Flaubert comme physiologue, mais plutôt de son absence de talent en tant que psychologue. En fait, le sentiment aurait été remplacé par une sensation, parce que Flaubert serait incapable de restituer une quelconque intériorité psychologique. Celui que la postérité retiendra comme le principal défenseur de la théorie adverse, la théorie romanesque qui s'oppose à la thèse romanesque qui s'oppose à la thèse sensualiste, c'est Émile Faguet. Le fond de l'âme de Madame Bovary, c'est le tour d'esprit romanesque, écrit-il en 1899. Distinguant explicitement entre le tempérament sensuel et le tempérament romanesque, il prend parti contre l'évidence. Madame Bovary n'est pas précisément une sensuelle. Avant tout, c'est une romanesque. Donc, comme disent les physiologues, une cérébrale. Et donc, sa première faute sera une incartade de l'imagination bien plus qu'une surprise des sens. Comme on peut le remarquer, Faguet propose un raisonnement symétriquement opposé à celui de Merlet. On se souvient que Merlet disait « Emma a l'air d'une romanesque, mais attention, c'est une sensuelle. » Faguet rétorque « Elle a l'air d'une sensuelle, mais attention, c'est une romanesque. » Si dans la critique du cinquantenaire qui suit la parution de Madame Bovary, les deux types les plus couramment invoqués sont ceux opposés de la romanesque et de la sensuelle, d'autres types sont également envisagés. On trouve notamment celui de la courtisane, ou de la demi-mondaine, ou de la messaline. À ce titre, Emma, ce qui a le don d'exaspérer Flaubert, est sans cesse assimilée à d'autres personnages littéraires ou à d'autres personnages types, qui présentent tous la caractéristique d'être des femmes vénales, corrompues ou corruptrices, ou bien les deux. On se souvient par exemple de la comparaison avec Fanny, avec Manon Lescaut, ou avec les personnages des œuvres de Dumas fils. Emma Bovary, c'est la Marguerite de la Dame aux Camélias, la Duchesse de la Dame aux Perles, la Suzanne du Demi-Monde, écrit Cuvier-Fleury. Emma est également comparée à Phèdre. Et d'ailleurs, la déclaration de Jules Lemaître, selon laquelle Emma Bovary résume toutes ses Phèdres de chef-lieu de canton, est à cet égard tout à fait édifiante. Si l'expression inventée par Lemaître, une Phèdre de chef-lieu de canton, ne masque pas le mépris qu'il accorde à cette pseudo-Phèdre, qui a perdu de sa superbe. Elle traduit également la menace qu'elle représente, celle d'une Phèdre qui quitterait la scène de la Comédie française et qui s'affranchirait du vers racinien pour venir semer le désordre auprès des notabilités d'un chef-lieu de canton, par exemple. Mais c'est encore, donc après tous ces types que je viens d'énumérer, avec Barbey d'Aurevilly, un autre type, d'un genre nouveau, qui est décrit. C'est tout simplement la femme médiocre des vieilles civilisations. Cette femme qui est, hélas, cela fait trembler, la moyenne des femmes dans les sociétés sans croyance. Comme on peut le constater, même dans sa médiocrité, Emma continue de scandaliser. Pour Jules Lemaître, Emma est l'un des types les plus frappants et les plus généraux de la petite bourgeoise au XIXe siècle. Et il précise... Ce type ne pouvait se rencontrer que dans une société où des filles de fermiers reçoivent souvent la même éducation que des filles de duchesse, où les classes se pénètrent, où le goût et le sentiment des élégances ne sont pas le privilège d'une aristocratie, où les plus petites villes suivent la mode de Paris, où la soif des jouissances est universelle, où tout semble possible aux grands appétits et aux grandes ambitions. Enfin, pour Zola, Emma représente également un type général qu'on n'a pas encore évoqué. Elle est la femme déclassée. Elle est la femme déclassée, mécontente de son sort, gâtée par une sentimentalité vague, sortie de son rôle de mère et d'épouse. Elle est encore la femme promise forcément à l'adultère. Enfin, elle est l'adultère lui-même, la faute d'abord timide, poétique, puis triomphante, grossissante. Ce recours au type que les critiques utilisent massivement aurait quelque chose de convaincre s'il ne mettait en évidence une telle multiplicité et une telle hétérogénéité. Comme on peut le constater, presque tous les types de femmes sont représentés. Pourtant, aucun type pris isolément ne semble tout à fait probant. D'ailleurs, on ne dirait plus jamais aujourd'hui « Emma, c'est la courtisane ». En outre, avec l'analyse de Baudelaire, par exemple, en 1857, une suspicion plane même sur l'être femme d'Emma, puisque ce dernier propose de louer au contraire ses qualités viriles et d'en faire le type du poète hystérique. C'est-à-dire que dans ce premier cinquantenaire qui suit l'apparition de Madame Bovary, presque tout et son contraire a pu être dit à propos d'Emma. C'est premièrement à se demander si la notion de type A peut avoir une pertinence pour elle, pour Emma, dès l'instant où le type, qui devrait justement permettre de circonvenir l'objet, de le saisir de manière univoque et homogène, échoue, précisément dans son cas, à exclure les autres types forcément concurrents. Mais on aura pu remarquer que cette typologie tout à fait disparate qui accueille Emma Bovary recèle malgré tout une unité au regard du point de vue moral qui lie ces différentes perspectives. Les analyses d'un Zola ou d'un Lemaître qui leur permettent de conclure au type de la déclassée ou de la petite bourgeoise du XIXe siècle sont, en dépit de la divergence de leurs respectives orientations politiques, sous-tendues par un même point de vue moral. Ils disent à peu près la même chose. Qui traduit une inquiétude face à la porosité, à la récente porosité sociale et à la menace que l'identité sociale, mais tout aussi bien l'identité, ne soit qu'une fable. De même, en ce qui concerne le débat qui oppose la romanesque à la sensuelle, on peut supposer que ce débat sous-tend un autre débat, celui de savoir si Emma est perverse ou pervertie. Autrement dit, la question de son immoralité posée à partir de savoir si il s'agit d'une immoralité innée, la sensuelle ou acquise, la romanesque, une prédisposition que son éducation serait venue compléter. si Emma est par nature, de nature sensuelle, elle est forcément immorale. Si Emma est de tempérament romanesque, c'est à ce moment-là l'éducation faite aux jeunes filles et les lectures qui l'auront pervertie. Cet argument, ce deuxième argument, est précisément celui de la plaidoirie de Maître Sénard qui va lui permettre de conclure, en définitive, à la moralité du roman de Flaubert. Mais dans un cas comme dans l'autre, et dans tous les cas d'ailleurs, on peut remarquer que ce que les critiques semblent redouter le plus, c'est de ne pas pouvoir trancher et de se trouver, avec le roman Madame Bovary et avec le personnage d'Emma, face à une éventuelle amoralité qu'il leur est pour l'heure impossible d'admettre. Pour résumer, on peut dire que tout se passe comme si pendant le siècle qui a suivi la parution de Madame Bovary, l'ambition de la critique par rapport à Emma avait été de construire un portrait qui restituerait un type identifiable, reconnaissable et immuable. Qu'on puisse la reconnaître, tel semble avoir été le projet auquel s'est adonnée la critique, en éliminant tout risque d'incertitude qui menacerait son savoir sur la femme, sur ce qu'est une femme et aussi sur ce que doit être une femme. On sait ce que c'est qu'une Bovary, pour paraphraser Madame Bordin, voilà ce que semblent dire de concert tous les critiques. En 1961, terme de ce siècle, quand Félicien Marceau, pour une nouvelle édition de Madame Bovary, portraiture à son tour Emma, il choisit une expression à laquelle on accordera, quelle que soit aujourd'hui sa désuétude, une indéniable suggestivité. Félicien Marceau écrit « En langage contemporain, Emma Bovary, c'est la raseuse. » La critique de Marceau résonne, un nouveau type, hein, la raseuse. La critique de Marceau résonne comme le point d'orgue d'une critique épuisée d'avoir pendant un siècle cherché à comprendre ce personnage féminin qui mettait à mal ses catégories de pensée. Et il aura finalement fallu attendre un siècle pour qu'une nouvelle posture critique voie le jour, qui consiste précisément à accepter de dire « on ne sait pas ce que c'est qu'une Bovary » et à affirmer « Emma Bovary n'est pas une ». On avait déjà pu en lire les prémices dans la première moitié du XXe siècle, à travers par exemple l'analyse de Thibaudet, qui, dès les années 20, alors qu'il ne renonçait pas encore à la notion de type, Thibaudet écrit « Madame Bovary a pu, à force de réalité, dépasser la réalité pour devenir un type au même degré que Sancho et Tartuffe, encore Tartuffe ». Il concevait néanmoins la possibilité d'un type mixte, puisqu'il écrivait « C'est donc bien, après la femme sensuelle qui voit Brunetière, la femme romanesque qui voit Faguet, mais c'est encore autre chose, c'est une malchanceuse, etc. etc. » Un peu plus tard, à la suite de Jean-Pierre Richard, qui va magistralement mettre au jour la logique pulsionnelle à l'œuvre dans le texte flaubertien, rendant finalement caduque l'ancienne bipartition romanesque-sensuelle, la critique littéraire va non seulement adopter cette réconciliation du romanesque et du sensuel, mais elle va même en faire l'une des spécificités du bovarisme. C'est ainsi que, par exemple, René Vernière définit le bovarisme. Je cite René Vernière, « Le bovarisme dépasse le romantisme en ce sens qu'il vit intensément le présent et veut étreindre ses chimères. Le romanesque en lui n'affaiblit jamais la sensualité primitive. L'idéal se résout dans un besoin immédiat de jouissance. » D'une manière générale, on peut dire que l'entrée en jeu de la notion de bovarisme dans le discours critique, mais là je dois préciser que cette entrée en jeu se fait assez tardivement pour les lettres. Hein, c'est-à-dire que contrairement au champ psychopathologique pour lequel ça se passe dans la première moitié, pour la critique littéraire, ça se passe un peu plus tard. Donc, la seconde moitié du XXe siècle. Cette notion de bovarisme va, dans la critique littéraire, pulvériser l'ancienne typologie contradictoire. Hein, on en a la preuve là pour l'opposition romanesque-sensuelle, mais ce sera de même concernant la question sociale, la possibilité, non seulement la possibilité, mais même la nécessité d'admettre de multiples composantes. Ce que Claude Duché, par exemple, aura exprimé par la formule Emma Bovary, paysanne d'origine, aristocrate en désir, petite bourgeoise dans sa vie. Cette formule qui rend compte, en outre, de l'éventuelle dimension imaginaire de l'identité sociale. L'entrée en jeu du bovarisme va également aller de pair avec la reconnaissance d'une figure jusqu'alors non prise en compte, finalement, qui est celle de la lectrice. Or, admettre qu'Emma est avant tout une lectrice, c'est moins lui reconnaître une identité stable qu'admettre son perpétuel devenir et sa dépendance au réseau des identifications qui la font et la défont. C'est admettre aussi que, par son assujettissement aux multiples propositions de ses lectures, elle puisse être foncièrement toujours étrangère à elle-même dans la conquête d'une identité sans cesse renouvelée. C'est ainsi que certains des portraits d'Emma que les critiques du XIXe siècle ont pu proposer se retrouvent dans la seconde moitié du XXe siècle, mais comme intériorisés et cette fois-ci attribués au désir d'Emma. On aura dit, par exemple, qu'Emma incarnait le type de la femme adultère. On va tout à fait cesser de le dire, mais on pourra en revanche remarquer qu'Emma, en faisant appel au texte flaubertien, souhaite rejoindre la légion lyrique de ces femmes adultères. Après la baisade avec Rodolphe, on peut lire « Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant envié. Si elle le devient, ou si elle croit le devenir, c'est donc qu'elle ne l'est pas à l'origine, ou pas tout à fait. » Baudelaire a pu dire, ou bien on a pu faire dire à Baudelaire, qu'Emma était un homme. On soulignera désormais dans la critique qu'elle souhaite être un homme. Ou bien on s'appliquera à démontrer qu'elle souffre d'un complexe de masculinité, par exemple. Et plus généralement, les critiques n'hésiteront pas, cette fois-ci, à faire état de ce qu'elle n'est pas. Je pense par exemple à l'analyse de Jean Belmain-Noël qui s'applique à montrer qu'Emma n'est pas une mère. Mais l'un des faits les plus significatifs de ce renouveau critique dans l'appréhension du personnage d'Emma va consister également dans la singulière volte-face qui signe son rehaussement. Tout se passe comme si la critique baudelairienne, tout à fait marginale en son temps, allait devenir le modèle d'une critique qui voit désormais en Emma le symbole d'un désir salvateur. D'ailleurs, il y a quelque chose de tout à fait significatif également, c'est que le terme de désir n'a jamais été employé pendant un siècle à propos d'Emma. Jamais. Après 1950, toutes les analyses psychologiques sur le personnage mettront sur le devant ce terme de désir. Alors, je pense par exemple à Mario Vargas Llosa, qui serait un exemple tout à fait marquant de ces auteurs qui avouent le pouvoir de séduction qu'Emma a pu exercer sur eux. Mais c'est tout aussi bien Sartre qui, dans une superbe mauvaise foi, d'ailleurs déclare ne pas aimer Flaubert, mais l'aimer elle absolument, Emma Bovary. On peut également écouter ce témoignage de Julien Gracq, qui dans son essai En lisant, en écrivant, loue en Emma cette fureur d'un vouloir vivre effréné. Voici ce que dit Gracq. Je suis plus sensible à cette relecture au beau combat d'Emma qu'à sa défaite, qui n'est nullement dérisoire, comme on le dit trop souvent. Car en somme, tout ce qu'il est possible de tenter dans sa situation, dès le début sans espoir, elle le tente, non sans hardiesse. Et la passivité nostalgique et fascinée qui a gardé le nom de bovarisme n'a que très relativement à voir avec un esprit de décision qui, dans le livre, va plus d'une fois jusqu'à l'intrépidité. Pourtant, il n'y a pas lieu de considérer qu'entre 1857 et 1957, les critiques ne savaient pas lire et que ceux du second demi-siècle auraient eu une meilleure compréhension de Madame Bovary. Sans doute ont-ils été, les uns et les autres, et sont-ils encore, confrontés à une même question qu'ils ont résolue chacun à leur manière. Les premiers, en empêchant que ne s'exprime ce qu'ils percevaient trop bien, les seconds en exaltant ce à quoi ils pouvaient s'identifier, la violence d'un désir qui cherche à s'exprimer. Que ce désir ait pu être celui d'une femme n'aura fait que renforcer cette violence faite au lecteur de Madame Bovary, en posant de surcroît et d'une manière insolite la question d'une problématique identité du féminin. On peut dire qu'en un siècle et demi de critique, Emma a cessé d'être un type pour devenir un mythe littéraire et un mythe féminin. Et on est en mesure de se demander si Emma, qui sera toujours un peu plus qu'une Bovary, ne correspond pas davantage, dans une certaine mesure, à l'ouverture propre au mythe plutôt qu'à la clôture propre au type. L'esthétique flaubertienne, selon laquelle une femme écrite fait rêver à 1000 femmes. Flaubert utilise cette phrase à propos de Salammbô, mais on pourrait tout autant l'appliquer à Madame Bovary. L'esthétique flaubertienne pourrait d'ailleurs aller dans ce sens. Pourtant, Flaubert n'aurait pas refusé à Emma le terme de type, qui dans son esthétique s'accorde avec celui de généralité, mais aussi de vérité. J'ai voulu reproduire des types, déclare-t-il dans une lettre à l'attention d'un lecteur de Madame Bovary. Mais le type envisagé par Flaubert, c'est bien cela qui souvent est problématique, n'est pas celui de Balzac. Il a à voir avec la puissance d'évocation et la capacité à créer l'illusion, capacité de donner à croire à l'existence, mais il a à voir également avec l'invention d'une proposition inédite. Je cite Flaubert, « Ce qui distingue les grands génies, c'est la généralisation et la création. » Il résume en un type des personnalités éparses et apporte à la conscience du genre humain des personnages nouveaux. Ça rencontre tout à fait ce que peut dire Jules de Gautier sur Flaubert. Mais le type, selon Flaubert, n'est pas non plus le type selon Zola. Quand ce dernier, Zola, écrit à propos d'Emma Bovary, le type vu certainement et copié par Gustave Flaubert, il est en parfaite contradiction avec l'intention de son auteur qui ne conçoit pas un type préformé qui aurait posé comme modèle et qui préexisterait au travail de l'écriture. Zola est un peu moins à côté quand il poursuit « On dit, c'est une Bovary encore. » On dit « c'est une Bovary » comme on a dû commencer à dire au XVIIe siècle « c'est un Tartuffe ». Encore. Cela vient de ce que Madame Bovary, si individuelle pourtant, vivant si ardemment de sa vie propre, est un type général. C'est peut-être à cet égard l'analyse de Sartre qui, refusant à Emma le statut de type pour lui préférer celui d'universel singulier, offre un compromis assez pertinent. Je cite Sartre. Quand il, Flaubert, déclare plus tard « que sa Bovary souffre et pleure dans 20 villages de France. Il ne prétend pas que son Emma, en tant que telle, se trouve reproduite à 20 exemplaires. N'oublions pas que Flaubert a 100 fois condamné le réalisme en littérature et que son ambition ne se donne pas pour objet de décrire correctement une généralité si particulière. Si Emma n'était qu'une provinciale déclassée et mal mariée, Madame Bovary ne vaudrait pas aux yeux de l'auteur une heure de peine. Un peu plus loin, il dit, et quand on dira plus tard d'une femme « c'est une Bovary », on n'avancera point pour autant dans la connaissance de son caractère, mais on la verra à partir des intuitions totalisantes d'un démiurge qui n'est autre que Flaubert. La géniale création flaubertienne de cet universel singulier qu'est Emma Bovary, Pierre Michon parvient à en rendre compte magistralement dans son récit « Corps du roi ». Pierre Michon écrit « Madame Bovary est toutes les femmes, c'est ma mère. » Je vais lire la suite également parce que c'est très beau. « Madame Bovary est toutes les femmes, c'est ma mère, c'est les pleurs des femmes, la frustration terrible qui toujours va déborder, déborde. » Le roi Gourand écrit que, dans l'art des cavernes, signes féminins et blessures sont interchangeables. Pour signifier la même idée, l'artiste, le penseur, l'écrivain paléolithique pouvait indifféremment figurer une vulve, une vache transpercée, le sang qui dégoutte d'une flèche. La vulve, le dol, la bête sous le merlin, le sang sont synonymes. Ce signe, on peut l'appeler Emma Bovary. C'est la fente du ventre compliquée de pleurs, moulière dolorosa. Michon parvient à faire d'Emma Bovary à la fois un universel, toutes les femmes, et le plus singulier de tous les singuliers, ma mère. Emma représente alors le signe féminin, non pas le symbole galvaudé d'une idée reçue de la féminité, mais, dans le dépouillement de l'archaïsme, la représentation de ce qui serait irreprésentable, l'incomplétude, la frustration, la division. On peut faire l'hypothèse que Michon est alors au plus près de la vérité que Flaubert, à travers Emma, s'est acharné à faire saillir dans Madame Bovary et que les errances de la critique ne font d'ailleurs que confirmer. À savoir la puissance d'une interrogation sur le sujet féminin qui s'apparente à la question « que veut une femme ?» mais cette question servie par la conscience ou l'intuition que la femme n'existe pas. L'impossibilité de faire le portrait de la femme auquel Flaubert a consenti aura rencontré, dans le discours critique sur Madame Bovary, la vérité de l'articulation problématique de ses multiples représentations.
Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et puis, je pense que tout le monde a été sensible non seulement à l'intérêt du contenu, mais à la qualité de la diction et de l'énonciation. C'était vraiment très passionnant.
Merci.
Intervention. Oui, Daniel Zanon.
Je aussi trouvé très passionnant votre présentation. Je suis en train de mener un travail sur la notion romanesque en remarquant que souvent le terme de romanesque est employé dans des romans ou des siècles de manière à concourir à servir une identité féminine peut-être toujours mystérieux et que c'est ce mot qui vient souvent. Et je me demande à vous entendre si. Madame Bovary, pour que les gens qui écrivent à ce moment-là et les 50 ans qui suivent, n'aient pas de permettre de problématiser d'une manière critique très forte cette notion qui, précédemment, vient toujours, mais sans jamais guère être précisée. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une romanesque ou la romanesque, au titre, comme si la désignation suffisait à chacun à comprendre ce qu'on veut dire par là. Et le roman de Flaubert, tel que lui, par tous ces gens, après, permet de, disons, d'opérer une critique de cette notion et de mieux la saisir. Et il me semble que, d'après tous les exemples que vous avez dit, on voit que les auteurs ont un moment comme une clé avec le Bovary pour problématiser la notion et puis assez rapidement refige, recrée et finalement recrée de passivité.
Oui, je remercie beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que vous dites. Et en effet, je crois que l'une des nouveautés, l'une des inventions de Flaubert, c'est vraiment de le problématiser et non pas d'en livrer le cliché ou ce qu'on pourrait en dire ou en croire. Et en effet, autre chose aussi, une Bovary, comme le bovarisme, très souvent fige dans une posture où on est obligé de retourner au texte flaubertien pour pouvoir en saisir toute la richesse de la problématique. Et si on en reste à la définition, à chaque fois on fige à nouveau. Oui, tout à fait. En tout cas sur Romanesque, c'est... Et puis il y a cette confusion aussi très souvent avec romantique qui est assez également qui est en tout cas assez intéressante à démêler, c'est-à-dire dans quelle mesure c'est un doublon de romantique ou pas. Et, en tout cas, la question de Romanesque, elle va être très présente dans la critique, mais aussi dès le procès, quoi. Ce sera vraiment l'argument également de...
J'ai trouvé très intéressant votre relation type-mythe. Et là, vous avez en fait presque prononcé le troisième terme, stéréotype. Parce qu'en fait, les types... c'était très intéressant la relation, la citation que vous avez faite, la correspondance de Flaubert sur... type et inédit, en fait. C'est à la fois du générique et de l'inédit, et dans une sorte d'idéal classique, hein, de la espèce de personnage qui modèle, dans lequel on peut se reconnaître, mais ce contre quoi Flaubert écrit, c'est le stéréotype, et c'est ce que c'est devenu dans le type. Le type au sens de stéréotype, à travers la tradition, chacun projetant ce qui... Alors il m'a semblé, je sais pas, c'est peut-être... quand vous citez le jugement de Zola sur la déclassée, que là il y a l'esquisse d'un point de vue qui sera celui de Claude Duchet, qui sera plus sociologique que moral, non ?
Oui, oui. Mais ce qui est frappant chez Zola, c'est que il dit en effet, c'est un type, c'est la femme déclassée. Mais c'est parce qu'elle est déclassée qu'elle devient immorale, etc. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il rattache tout, enfin, un point de vue moral. Oui, le point de vue moral suit de très près le point de vue social.
Oui.
Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, le point de vue moral reste. Et...
Oui, d'autres.
Oui,
c'est vrai, c'est dans le
Ah.
On sait que Héloïse est assez virile aussi dans son genre. Et elle joue le rôle de l'homme parce qu'elle a un châle. Et puis, Madame de Marie-Mère aussi.
J'ai jamais pensé à ça, à appliquer le bovarisme aux deux autres Madame Bovary. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, le terme de bovarisme permet de désigner la Bovary qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut toujours, imaginer sa Bovary, quoi. Oui. Oui. Alors, oui. Ça marche aussi pour Charles, d'ailleurs. Il y a les deux. Ça marche peut-être même mieux pour Charles qui...
C'est vrai que le bovarisme, il n'y a pas de sexe, là. Hein.
Non. Et à la fin du roman, c'est vrai que... On a souvent pu repérer que Charles était contaminé par une sorte de bovarisme quand il cambre la taille comme une duchesse. On se demande vraiment ce qui lui prend. Si ça... Il ne nous a pas habitués à ça, mais là, il est dans un mimétisme tout à fait troublant. À... Oui. Oui, au-delà du tombeau. Oui.
Oui, Sandra Janssen.
Oui, j'ai trouvé très intéressant l'observation que le mot désir n'apparaît pas dans la critique du XIXe siècle. Et tout simplement, ma question est peut-être trop simple pour qu'on puisse répondre, mais est-ce que tu aurais une idée ce qui a rendu possible le fait qu'on puisse s'identifier à Emma à partir de 1950? J'imagine que dans le fait de la paix sensuelle,
en fait, quand on dit une sensuelle, le désir est présent, mais il est condamné. Il est condamné, et donc c'est une façon de ne pas parler du désir. C'est pour ça que j'ai dit, on ne va pas dire que tous les critiques se sont trompés jusqu'en 1950, et puis après, ils auraient en effet vu ce qu'il y avait à voir. Ils ont certainement perçu cette même force du désir comme ça et ce même scandale, mais en le taisant pendant un siècle et en l'exaltant après. Alors ça, certainement parce que la société là avait changé et a rendu possible aussi ça. Oui, ça prise en compte. C'est vraiment très, très, très daté. Le désir, il apparaît avec Jean-Pierre Richard, 1954. Et avant, jamais on ne le rencontre dans une analyse du personnage. Et après, plus jamais on ne l'omet.
Pour ajouter une autre réponse peut-être,
oui,
à la question qui vient d'être posée, tu ne pensais pas que l'apparition du terme mais de la notion du concept de désir dans la critique avec Richard et quelques rapports a fait que le rôle qu'a commencé à jouer la psychanalyse dans les sciences humaines, oui, dans la critique littéraire française. Parce que Richard, quand même, il a un rapport très, très fin et très subtil, mais toujours il dialogue sans cesse avec la psychanalyse. Et on ne peut pas dire exactement quand... les ouvrages décisifs de Freud ont commencé à être discutés sur la scène intellectuelle en France, mais probablement c'était au début des années 50.
Oui. Hein? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, il faudrait que je fasse une recherche plus approfondie pour savoir en effet dans quelle mesure c'est un terme qui est finalement peu utilisé avant 1950. De manière plus générale. Dans la critique de Baudelaire, par exemple, on ne rencontre pas le mot désir, pourtant il y a l'idée, mais il utilise le mot aspiration, qui est également souvent un mot que Flaubert utilise aussi. Et l'aspiration de... Oui, on n'utilise plus ce terme-là, on va utiliser désir... après, donc...
Oui, Damien.
que moi j'étais très surpris, ça c'est vrai, c'est parfois la dichotomie posée entre les romanesques ou sensuels, et qui tend à faire donc, de romanesque à l'église, synonyme de vertueuse. C'est pour le moins surprenant si on considère en revanche sur la période qui précède, être romanesque au départ, une attitude de vertueuse. Et les romanesques étaient sensuels, enfin, ça faisait partie du programme de l'être romanesque. Et là, à partir du personnage de Bovary, ce qu'on se permet d'extinguer les deux. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être parce que dans la période antérieure, il n'était finalement pas pensable ou intellectuellement formidable d'envisager le désir féminin. Du moment où le corps féminin devient agent possible d'action et guérir, que cette dichotomie se pose et qui sépare les deux. Et peut-être qu'il faut revenir 100 ans plus tard pour arriver à réconcilier.
Oui.
Je trouve que dans tout à l'heure, vous avez parlé du génie, création de l'universel singulier, c'est que sans doute il lie ensemble une forme de lyrisme du féminin avec un discours, ce qui non seulement est rare, mais sans doute exceptionnel.
Oui.
Voilà, juste avant, il y a 30 ans, je ne sais pas exactement les années, mais avant, Balzac fait l'abus du département. Roman qui pourrait prendre le rôle de création du titre, surtout que le titre là affiche une abstraite pour dire un titre, mais justement à force d'être dans la critique et dans le bon critique, il me manque l'autre aspect désir et contemporainement à Balzac et des auteurs comme Georges Sand qui usent et abusent de la fusion presque entre romanesque et romantique, mais justement, en même temps, il ne traite pas la question d'un point de vue critique. Or, c'est vrai que Flaubert est lié.
Oui.
Il y a quand même une question du visage féminin dans les travaux des psychiatres du 19e siècle, dans les travaux sur l'esthétique, en particulier, comment ça en parlait.
Deux petites choses, détail. D'abord, la notion de type dans le sens courant est complètement subvertie par et explicitement par Jules Le Gautier, qui dit dans ses études sur le bovarisme que le moi n'est jamais un. Il y a toujours une dispersion des moi. Donc, on peut être romantique et sensuel en même temps, c'est je peux dire, sa conception, selon sa conception générale et selon sa lecture de Madame Bovary. Mais à propos de la notion de type, il me semble qu'il y a dans les études littéraires au moins deux notions de type. Il y a le type au sens stéréotype qui serait la signification attribuée par Zola, peut-être, à la notion de type, mais il y a aussi le type au sens attribué par Lukács à Balzac. Parce que selon la lecture de Balzac par Lukács, le type est justement ce que Sartre définit comme un universel singulier. C'est un héros ou qui est individuel, particulier, qui exagère même des traits d'époque, mais c'est un type, dit Lukács, où toute l'époque se montre de façon efficace et d'une façon exemplairement claire. Donc, mais je ne sais pas si le type lukácsien a disparu un peu de la discussion générale, mais ça m'a beaucoup frappé lorsque j'ai lu la préface de Lukács à Balzac et le réalisme français.
Bah, écoutez, je remercie vivement nos deux intervenants et je vous donne rendez-vous le samedi 15 mars pour un exposé, si je me trompe, de Philippe Dufour, justement sur Balzac et Flaubert, et un exposé de Claude Duchesse sur l'art petit bourgeois. Donc, à bientôt et